Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est dirigée ce soir par Charles de Meyer et nous aurons une série d'invités prestigieux pour aborder un thème qui n'était pas attendu, qui fait peut-être un peu irruption dans cette campagne présidentielle et qui a peut-être vocation à dérouter, perturber ceux qui nous disaient que les sujets bioéthiques étaient derrière nous et n'auraient pas vocation à jouer un rôle important dans les élections majeures. Je m'explique. Tout récemment, l'ancien Premier ministre et candidat annoncé à l'élection présidentielle, Gabriel Attal, a jugé utile de lancer sa campagne sur des questions qui ont lien à la procréation. Deux éléments qui corroborent cette affirmation. D'abord, le fait que son mouvement jeune ait affirmé vouloir réclamer la légalisation d'une GPA dite « éthique » dans son programme présidentiel pour 2027. Il a été suivi par Franck Riester, de mauvaise mémoire déjà pour ceux qui s'étaient opposés à la loi Taubira à l'époque. Franck Riester a expliqué que le débat devait être au moins lancé. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des campagnes présidentielles, eh bien ça veut dire qu'on préchauffe, on donne des éléments pour que les sondages soient faits. Tout ça est évidemment savamment orchestré, d'autant plus que dans la même séquence, et ça veut dire qu'une agence de communication a très certainement pensé la chose, Gabriel Attal a fait état du fait qu'il songerait peut-être un jour, avec son compagnon Stéphane Séjourné, actuel vice-président de la Commission européenne et représentant, vice-président exécutif d'ailleurs de la Commission européenne et représentant de la France parmi le Collège des commissaires, qu'il songerait peut-être à avoir un enfant. On ne sait pas par quelle manière, il ne s'est pas exprimé sur cette question. Est-ce par l'adoption ouverte par la loi Taubira ou est-ce par la volonté de recourir à la GPA? En tout cas, dans la continuité de ce début de campagne, on voit qu'il y a une volonté de mettre ce sujet sur la table. Cette volonté, elle entre en consonance avec une autre, puisque l'on nous explique que dans une période où la guerre est aux portes de l'Europe, où l'inflation guette, où nous ne savons pas trop bien comment les nations parviendront à rembourser le fameux plan Covid, au moment également où la fracture, où les fractures de la société française apparaissent de plus en plus béantes, notamment avec l'émergence des revendications ethnico-raciales autour de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, le parti central nous explique qu'avant la présidentielle, il y a une nécessité, c'est pas rembourser la dette, c'est pas avoir un budget à l'équilibre, c'est activer ce qu'ils appellent le droit à mourir dans la dignité, ce qui est une autre manière de décrire la légalisation de l'euthanasie en France. Pour discuter de tout cela, il m'apparaît important de faire entendre les voix des conservateurs, les voix de ceux qui font de ce combat un combat essentiel depuis des années. J'aurai en fin d'émission Grégor Pupin de l'European Center for Law and Justice, juste avant lui, Ludovine de la Rochère, dont chacun connaît l'implication au sein du syndicat de la famille. Et pour commencer cette émission, deux invités de marque. D'abord, Marie-Lise Pélissier. Marie-Lise, vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie, je ne fais pas erreur?
Non, c'est tout bon. Bonjour, Charles.
Et Guillaume Bernard, qui a de multiples casquettes, qui est un petit peu notre intellectuel organique de Radio Courtoisie et qui se traite évidemment de ces sujets-là depuis très longtemps dans cette émission et à notre antenne. Guillaume, bonsoir.
Bonsoir Charles, et vraiment je suis toujours très flatté quand je suis reçu dans le journal des débats.
Et oui, les vils flatteurs font de bons animateurs, dit-on. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est est-ce que vous comprenez le sens de ma réflexion, Marie-Lise et Guillaume? Est-ce que vous avez été surpris de cette réémergence? Est-ce que finalement, à un an de la présidentielle, le fait que ces sujets occupent une partie importante du débat public, pas tout le débat public, mais une partie importante du débat public, vous a surpris, étonné? Et est-ce que ça vous intéresse en soi déjà?
Alors, qui commence?
Marie-Lise Pélissier, allez-y.
Alors, surpris, pas tellement. Disons qu'on est dans les sujets de bioéthique déjà depuis longtemps et depuis janvier. Rappelons quand même qu'il y a les enjeux de la révision de la loi bioéthique qui a commencé depuis janvier, même si on en a assez peu entendu parler puisqu'il y avait la loi euthanasie qui était plutôt d'actualité. Et ces révisions de loi bioéthique ont pour dans le dossier quand même l'élargissement de la PMA, notamment de la procréation médicalement assistée post-mortem pour les transgenres, la technique de la ROPA, l'embryon à 3 ADN. Donc en fait, il y a quand même pas mal d'enjeux qui vont se se dérouler. Et puis, qui dit élargissement de la PMA dit bien sûr peut-être création, enfin légalisation de la GPA, puisqu'on sait bien que c'est dans une logique d'égalité. Si les femmes, si les couples de femmes et les femmes seules peuvent avoir un enfant, pourquoi les pères ne pourraient pas? Donc, ce n'était pas si étonnant que ça que le sujet arrive. Gabriel Attal s'était déjà prononcé en faveur de la GPA les années auparavant. Pourtant, on nous disait évidemment en 2021 dans l'hémicycle que c'était la ligne rouge. Mais bien sûr, ligne rouge qui est toujours vouée à être dépassée. Donc, je pense qu'effectivement, ce sont des sujets essentiels qui sont souvent mis en avant lors des débats présidentiels.
Guillaume Bernard.
Bon, écoutez, c'est évident que les questions de mœurs, de bioéthique, de morale, je crois qu'il faut tout simplement prononcer aussi le mot, parce que, si vous me permettez l'expression un peu familière, on nous bassine avec l'expression de questions sociétales, ce sont des questions morales. Ces questions morales, elles sont évidemment structurantes dans la société. Et il n'est donc pas étonnant que, dans la mesure où il y a une permanence de ces enjeux, dans la mesure où il y a une surenchère, Marie-Lise vient de le dire, une surenchère permanente de la part des forces politiques progressistes dans ces domaines, et bien que cela revienne régulièrement dans le débat public. En outre, il y a une deuxième raison pour laquelle Gabriel Attal et d'autres peuvent être tentés de mettre ces sujets-là sur le tapis. Et bien, c'est parce que, tout simplement, les forces politiques ne sont pas unanimes. Aucune force politique n'est véritablement unanime sur ces questions-là, mais il faut quand même bien le dire, il y a plus de divisions à droite qu'à gauche. La gauche est d'une certaine manière plus cohérente, alors pas dans un sens qui est le mien, j'allais dire le vôtre, mais enfin en tout cas le mien, dans la mesure où évidemment les forces
de gauche… Je crois que vous ne trahissez pas de grands secrets, Guillaume Bernard, vous ne trahissez pas de grands secrets.
Bon. Très bien, je n'ai pas fait votre coming out conservateur, voire réactionnaire. Très bien. Moi, je l'ai fait depuis longtemps, donc ça n'est plus un souci. Bon, les forces politiques de gauche sont très clairement progressistes et elles ont une cohérence et une unanimité plus grande dans ce domaine. Et donc, mettre les sujets de mœurs, de bioéthique, de morale sur le tapis dans le débat public, eh bien, c'est tout simplement tenter de diviser l'adversaire, essayer de le faire trébucher, c'est la peau de banane. Alors qu'évidemment, les forces politiques de droite, eh bien, elles auraient préféré une campagne qui se focaliserait sur l'immigration, sur l'insécurité, là où en revanche, eh bien, elles présentent une certaine cohérence, même s'il peut y avoir des débats internes, des positions plus ou moins, jusqu'au boutiste, mais enfin, il n'empêche qu'il y a plus d'unanimité. C'est donc de la stratégie politique, c'est de la bonne stratégie politique, me semble-t-il, parce que ça oblige évidemment, ou ça risque d'obliger, eh bien, les candidats à la présidentielle de prendre position sur des sujets sur lesquels ils voudraient s'abstenir d'être clairs pour éviter de cliver. Voilà. Et donc, ça ne m'étonne pas que ce sujet revienne. Cela étant dit, est-ce que vraiment ces sujets resteront prédominants dans la campagne présidentielle en 2027 jusqu'en janvier-février 2027, il est possible qu'on en parle encore, à partir de février de l'année prochaine, on verra quels sont les sujets qui se seront véritablement imposés pour canaliser le choix des Français.
C'est désormais un état de fait. Donc, dans cette pré-campagne, comme vient de nous l'expliquer Guillaume Bernard, il y aura une place pour les questions bioéthiques. Si cette place pour les questions bioéthiques existe, elle interroge les mouvements, les intellectuels, les professeurs, finalement les militants qui veulent que cette partie des lois morales ou sociétales, selon le terme qu'on emploie, n'évolue pas, ou en tout cas n'évolue pas dans ce sens-là. Est-ce que, comme porte-parole de la Marche pour la vie, ça vous donne un coup de fouet, Marie-Lise Pélissier? Ça vous encourage à continuer sur le chemin que vous avez fait? Est-ce que finalement, cette actualité vous donne à réfléchir sur vos moyens d'action jusqu'à l'élection présidentielle?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la Marche pour la vie a une voix, effectivement, à porter lors des élections. En 2022, nous avions écrit à tous les candidats présidentiels pour proposer notamment toutes nos 10 propositions. La Marche pour la vie a 10 propositions en faveur du respect de la vie. En fait, plus que la question des lois qui pourraient passer ou pas passer, nous, on promeut toujours la question d'une culture et des lois qui favorisent l'accueil de l'enfant à naître et les... l'accueil des personnes handicapées, le soin des personnes malades en fin de vie. Et donc, dans tous les cas, on a une force de proposition sur ces sujets-là et on voudrait que les candidats aux élections présidentielles nous écoutent sur ce point. Après, sur tous les sujets de PMA, de recherche sur l'embryon et de GPA, donc, qui pourraient petit à petit toujours évoluer dans le mauvais sens, on a pour but de toujours prendre la parole sur ces sujets, de toujours développer l'argumentaire et de mobiliser dans la rue, mais voilà, sans perdre de vue aussi nos sujets de début et fin de vie, question de l'avortement et de l'euthanasie. Et puis bien sûr, il y a la question de l'euthanasie dont on va sûrement parler, qui va peut-être jouer aussi dans cette élection présidentielle, puisqu'on ne sait pas encore finalement si ce texte, cette proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté sera votée à la fin du quinquennat. Le calendrier est serré, et bien que certains répètent à l'envi qu'il sera voté avant la fin de l'été, on n'a aujourd'hui aucune certitude. Et donc, bien sûr que s'il n'est pas voté, cela risque aussi de revenir dans certains programmes. Et donc, nous devons continuer à nous mobiliser sur ces sujets et à sensibiliser les candidats à l'élection présidentielle sur le sujet de l'euthanasie et du suicide assisté.
Guillaume Bernard, on fera au cours de cet entretien une focus à droite et une focus à gauche. Si je fais le compte des candidats de droite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont érigés et contre le projet de loi sur l'aide à mourir et la légalisation du suicide assisté et contre la GPA. C'est le cas également d'autres figures de la droite. On peut penser à Marion Maréchal ou Éric Zemmour, par exemple. C'est le cas également de Bruno Retailleau, le candidat pour l'instant désigné chez LR. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que la stratégie de Gabriel Attal de remettre ces sujets en place vise davantage son acolyte Édouard Philippe que le reste de la droite française, ou est-ce qu'il faut le voir différemment?
Alors, c'est certain que quand on est engagé dans une campagne électorale, votre principal adversaire, c'est toujours celui qui vous est le plus proche, parce que c'est celui qui peut vous prendre des parts de marché. Oh, pardon, des électeurs, excusez-moi. Mais n'oublions pas quand même que les partis sont des entreprises électorales qui gagnent leur vie, hein, grâce à la politique. Bon, donc oui, évidemment, la première cible pour Gabriel Attal, c'est sans doute l'espace du centre, l'espace de la grande coalition des modérés. Bon, et donc qui va depuis la gauche social-démocrate jusqu'à la droite, on va dire, libérale. Bien. Donc, c'est certain. Cela étant dit, il faudrait quand même pas oublier que dans les questions de mœurs, de bioéthique, de morale, il y a quand même une question fondamentale qui est celle de la cohérence intellectuelle. On ne peut pas prendre position émotionnellement sur un sujet, allant donc dans un sens, et puis sur un autre sujet, se retrouver avec une position elle-même émotionnelle qui serait idéologiquement contradictoire. Or, s'il y a semble-t-il une certaine unanimité à droite des diverses personnalités susceptibles, en plus d'être candidates à la présidentielle, contre l'euthanasie, il y a en revanche une incohérence vis-à-vis du mariage homosexuel, de la PMA et évidemment de la question qui est matricielle de toutes ces questions-là, qui est la question de l'avortement. On ne peut pas évidemment s'opposer à la GPA en disant qu'on est contre le fait de chosifier l'enfant qui serait l'objet donc d'un contrat et ne pas comprendre que c'est le même enjeu qui se passe dans le cadre de la PMA. Bon, donc nos classiques de droite, ils sont bien gentils de prendre des positions sur le débat actuel, mais encore faudrait-il qu'ils assument une certaine cohérence intellectuelle vis-à-vis de l'ensemble de ces questions et qu'ils prennent conscience tout de même que, eh bien, les forces idéologiques progressistes, eh bien, elles avancent par étapes, petit par petit, petit pas par petit pas, hein, c'est la technique du voleur chinois, et que ce n'est pas en se prononçant uniquement sur la dernière question que l'on fait preuve d'intelligence. Il faut voir l'ensemble du problème, malheureusement, la droite, de ce point de vue-là, et c'est pour cela que tout à l'heure j'y faisais allusion, la droite n'est pas unanime, la droite n'est pas cohérente et fait preuve d'une moins grande cohérence intellectuelle que la gauche. Ceci dit, je rebondis sur cette question pour quand même évoquer le fait que sur la question de l'euthanasie, on voit qu'un certain nombre d'hommes politiques ont petit à petit été de plus en plus courageux. Peut-être pensaient-ils au départ qu'ils seraient très marginalisés s'ils osaient dire qu'ils étaient opposés à l'euthanasie. Et puis, voyant le débat s'éterniser, l'information tout de même se diffuser, le travail de lobbying, ça n'est pas un gros mot de le dire, le travail de lobbying des organisations pro-vie faisant son œuvre, eh bien, petit à petit, ils se sont rendus compte que le concept d'euthanasie passive, par exemple, était une escroquerie intellectuelle, qu'en fait, ça permettait de justifier l'euthanasie tout court, que beaucoup de Français semblaient adhérer à l'euthanasie, mais qu'en fait, ce à quoi ils adhéraient, c'était plutôt aux soins palliatifs, que l'immense majorité, on nous disait que l'immense majorité des Français étaient pour l'euthanasie, alors qu'en fait, il n'y en avait que la moitié, et sans doute moins que la moitié, tout le reste étant des Français étant favorables aux soins palliatifs. Donc, le travail de lobbying, le fait de d'écrire, le fait de faire des conférences, le fait d'intervenir auprès des hommes politiques, ça a un impact. Et quand vous posiez la question à Marie-Lise si effectivement la marche pour la vie allait pouvoir et même devoir agir, mais évidemment, elle va continuer à le faire. Et la preuve en est, sur la question de l'euthanasie, on a vu une opinion publique de moins en moins favorable, et même au sein des assemblées politiques, de moins en moins d'hommes politiques qui se prononçaient en faveur du projet euthanasique. Et donc, par conséquent, tant mieux si ces sujets de mœurs, de bioéthique, eh bien, viennent sur le devant du tapis. Ça nous obligera à deux choses. D'une part, à avoir un discours cohérent face à la gauche, et d'autre part, à expliquer aux hommes politiques de droite qu'ils doivent faire preuve de logique et de cohérence dans leur prise de position politique.
Marie-Lise Pélissier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le calendrier de la loi sur l'euthanasie est bousculé. On voit émerger un certain nombre de demandes, comme celui d'un référendum sur la question. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un état de l'avancement de la loi ?
Alors, un état, on a justement une information qui est tombée depuis 14h30 aujourd'hui même. La commission mixte paritaire, qui donc était en suspens, on attendait l'avis du Premier ministre, aura lieu le 2 juin. Donc, la commission mixte paritaire qui rassemblera 7 députés, 7 sénateurs pour essayer de trouver un accord sur ce texte de légalisation de l'euthanasie du suicide assisté. Bien sûr, on croit assez peu à un accord, vu que le Sénat a rejeté deux fois et que l'Assemblée a voté deux fois en faveur de ce texte. Donc, on pense plutôt à un échec de cette commission mixte paritaire et, dans ce cas, un retour des débats à l'Assemblée à partir du 22 juin en commission et du 27 juin en hémicycle. La question est-ce que le Premier ministre décidera de donner totalement le dernier mot à l'Assemblée ? C'est un peu ce qui reste en suspens. Est-ce que les navettes vont se prolonger ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de forces politiques quand même qui insistent pour que ce texte soit voté en juillet. Ils sont même prêts à allonger le calendrier parlementaire au-delà du 14 juillet pour que ce texte passe avant la fin du quinquennat, puisqu'on sait qu'en octobre, enfin en septembre-octobre, cela risque d'être compliqué.
Je vous confirme, à mon avis, il n'y aura pas de place avec le vote du budget. Oui, tout à
Voilà, exactement, le haut du budget qui prend la place. Et ce qui est quand même assez alarmant, c'est qu'on a vu, donc c'est Panifou qui a annoncé cela il y a une semaine en rassemblement, avec les présidents de l'Assemblée, qui a dit que ce texte était prioritaire avant un texte sur la justice criminelle et sur la protection de l'enfance. Donc on voit quand même clairement une certaine idéologie de la part du gouvernement ou de... de la part de certains et de ceux qui poussent ce texte parce qu'ils en font totalement une priorité, alors que, comme le rappelait Guillaume Bernard, le consensus est de moins en moins présent. Il n'a jamais été présent, en fait, mais déjà, il l'est de moins en moins. Le fait que le Sénat ait rejeté le texte l'a encore prouvé. Donc, on se prépare à un début estival qui parle toujours de fin de vie.
Guillaume Bernard, vous l'avez vu, je vais vous retrouver ça, mais je crois que le sénateur LR du 16e arrondissement a proposé que le sujet soit tranché par référendum. Bruno Retailleau a poursuivi en affirmant qu'il soutenait cette proposition. Pour l'instant, à ma connaissance, personne ne s'y est vraiment opposé parmi ceux qui s'opposent à cette loi. Que pensez-vous de cette proposition ? Est-ce que ça vous paraît être une bonne manière de régler le sujet, à la fois sur le fond et puis sur la forme ?
Bon, c'est très délicat parce que s'opposer par principe à un référendum, ce que je ne fais évidemment pas, ce serait s'opposer tout simplement à l'expression de ce qu'on appelle la démocratie directe, la souveraineté populaire. Et donc, on peut penser effectivement que ce serait sans doute la meilleure des solutions, parce que en plus, cela obligerait véritablement à un débat, et à un débat, qui serait relativement équilibré, parce que là, il y aurait l'obligation d'une certaine manière qu'il y ait dans les médias un temps de parole qui soit accordé aux opposants, qui soit suffisamment important pour que il n'y ait pas de déséquilibre. Bon, cela étant dit, faire trancher une question de morale, un vote politique, c'est vrai que c'est philosophiquement très 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 discutable. Je reviendrai un tout petit instant, je vous donnerai cet exemple-là parce qu'il me paraît relativement important. Il y a maintenant pratiquement 15 ans, lorsque était venue sur la table la question du mariage homosexuel, nous avions été quelques-uns, pas très nombreux, je pense par exemple à Guillaume de Thiélois, à tout simplement faire remarquer que avant même de savoir si l'on était pour ou contre le contenu de la loi Taubira, la première des questions à poser et à mettre en avant dans le débat politique, c'était de savoir s'il était légitime que la puissance publique légifère sur un tel sujet, voyez. Alors, il est bien évident que dans la mesure où aujourd'hui tout est susceptible d'une intervention du législateur, peut-être qu'un référendum serait plus souhaitable que de laisser aux représentants politiques qui ne sont pas forcément très clairs sur le sujet, pas toujours très clairs sur le sujet, de leur laisser le pouvoir de trancher. Peut-être y aurait-il aussi, parce que, entre nous soit dit, certes, Emmanuel Macron avait annoncé que d'ici la fin de son mandat, les Français seraient consultés, on n'a jamais vu venir le référendum, peut-être que l'un des moyens d'imposer un référendum, ce serait d'introduire dans la loi une révision constitutionnelle, puisque vous savez, alors là je parle sous le contrôle de Marylis, mais il me semble quand même que ce texte est un projet de loi et lorsqu'il y a un projet de loi, si jamais celui-ci engage une révision constitutionnelle, le référendum est obligatoire pour réviser la Constitution. Voilà, j'aimais cette hypothèse-là, ça me paraît un peu tardif pour envisager une telle évolution du texte et contraindre à un référendum, mais voilà une des possibilités. Bon, j'ai été un peu long, pardonnez-moi. Oui, le référendum serait peut-être plus souhaitable parce qu'il permettrait, moins par une adhésion de ma part au fait que des questions de morale soient tranchées par une décision juridique, mais plus parce que ça obligerait dans le débat à donner un poids égal aux différentes positions et notamment à celles qui s'opposent à l'euthanasie.
Marie-Lise Pellissier, vous allez devoir nous quitter bientôt. Juste une question rapide. En juin 2025, la Chambre des communes au Royaume-Uni avait activé l'aide pour une loi sur l'euthanasie, assez semblable à ce qu'on pourrait voir advenir en France, quoique en fait peut-être plus limitée que ce qu'on a vu dans certaines des moutures. On voit que finalement cette loi n'a pas passé la Chambre des Lords. Est-ce que vous pensez que cet exemple peut inspirer les opposants en France à ce passage en force d'une loi sur l'euthanasie ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement décide de passer cette loi en force, il y a quand même une question sur la manière dont les pays étrangers vont nous voir. Enfin, je lisais justement dans le Figaro ce matin un article d'Agnès Leclerc où il était dit, voilà, il y a quand même cet aspect de la vision des pays étrangers sur un passage en force sur une loi aussi grave, alors même que vous avez cité le Royaume-Uni, il y a aussi l'Écosse qui a rejeté la loi. Il y a la Slovénie qui a rejeté par référendum. Alors, ce n'est que repoussé, mais déjà, c'est quand même un signe aussi de cette opposition. Donc, le fait qu'en France, on veuille à tout prix passer cette loi sans même faire un référendum et alors même que le Sénat s'est prononcé contre, va forcément envoyer un message politique plutôt négatif pour la France. Je rebondis juste sur ce que disait Guillaume Bernard. Donc, ce n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Donc, je crois que les dispositions ne sont pas les mêmes. En revanche, si la loi est votée, on pourra toujours faire un recours au Conseil constitutionnel pour examiner s'il y a des points qui sont incompatibles avec certains articles de la Constitution. Donc, je pense que ça sera... Je sais que le CLJ a déjà travaillé sur ce sujet et ce sera peut-être un recours à faire si la loi est votée, même si moi, je pars du principe qu'on peut encore la faire échouer. Et puis, autre point aussi sur le référendum de Spinner, ce qui est important à voir, c'est que la question qu'il pose, c'est vis-à-vis du soin, c'est-à-dire qu'il voudrait exclure la notion de soin de la proposition de loi. Et pour lui, ce référendum se baserait vraiment sur cette question-là, ce qui est assez intéressant parce que je pense qu'on peut rassembler quand même un large consensus sur le fait que donner la mort n'est pas un soin. Voilà, donc je pense que je suis assez d'accord avec Guillaume Bernard aussi sur le fait que même si je ne défends pas pleinement l'idée du référendum sur un sujet aussi grave, je pense que l'avantage au moins, ce serait que les Français en entendent parler parce que je trouve ça assez inquiétant de voir à quel point les Français sont peu informés sur ce sujet.
Un grand merci Marie-Lise de nous avoir accompagnés dans cette discussion. Je crois que vous rejoignez le studio d'à côté. C'est l'un des grands mérites de Radio Courtoisie de pouvoir vous nous offrir deux possibilités d'enregistrement en même temps. Continuez bien votre combat, chère Marie-Lise.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Guillaume, il nous reste 5 à 7 minutes pour continuer notre discussion. J'aimerais en revenir sur cette question politique. On l'a vu, hein, calendrier accéléré potentiel dans les chambres parlementaires sur cette question. Est-ce que vous pensez que c'est une accélération qui pourrait choquer l'opinion publique qui semblait, être hostile ou rétive, au moins adhérer ou laisser les choses se faire? Est-ce que cette accélération pourrait, de votre point de vue, interpeller l'opinion publique qui se demanderait pourquoi est-ce qu'il y a finalement besoin d'accélérer les choses à ce point, avec un aspect certainement très dommageable d'une loi qui serait que l'Assemblée nationale tenterait de faire passer en force au mois de juillet, qui sera la période des souffrances sur la canicule et du manque de couverture territoriale, d'assistance aux personnes les plus vulnérables aux fortes chaleurs. Et on sait que ça a une incidence réelle sur les personnes les plus dépendantes ou les plus fragiles.
Je crains malheureusement, cher Charles, que l'opinion publique ne soit pas forcément bien consciente de l'impact d'une telle loi. Par ailleurs, évidemment, ceux qui utiliseraient la procédure de l'échec de la commission mixte paritaire pour permettre à l'Assemblée nationale de trancher définitivement la question, eh bien, pourrait toujours effectivement se cacher derrière le fait que c'est effectivement la procédure qui est constitutionnellement prévue. J'aurais plutôt, en revanche, tendance à penser que l'opinion publique pourrait, et alors finalement c'est peut-être mieux encore que simplement être choqué par une procédure législative, que l'opinion publique pourrait être choquée par la surenchère progressiste qui se met en place petit à petit et vis-à-vis de laquelle il me semble quand même qu'il y a, au moins dans une partie de nos compatriotes, je dirais une réaction à cela. Le fait de permettre de permettre directement ou indirectement par une évolution ultérieure de la loi à des adolescents demander l'euthanasie pour des raisons psychologiques, le fait si vous voulez que dans toutes les théories du genre et notamment le transgenrisme on permette à des adolescents ou à des jeunes adultes de devenir définitivement stériles, ce sont des choses qui quand même, lorsque elles sont présentées très clairement à l'opinion publique, finissent quand même par choquer nos compatriotes. Non pas qu'il y ait, je dirais, une réaction philosophique, épidermique, fondée sur une connaissance de l'ordre naturel, de la philosophie aristotélicienne ou thomiste. Non, je pense que c'est tout simplement du bon sens. Et moi, c'est ce qui, peut-être politiquement, me rend le plus optimiste. C'est-à-dire le fait que on ne puisse pas détruire l'ordre naturel des choses, lorsque les progressistes cherchent à l'obscurcir, il n'empêche qu'au bout d'un certain temps, leur surenchère révèle des choses absolument ignobles et inadmissibles et que finalement, il y a une réaction de bon sens, d'au moins une partie non négligeable de l'opinion publique. Donc, pour répondre clairement et succinctement à votre question, à mon avis, c'est moins l'usage de la procédure parlementaire qui pourrait choquer que le contenu de la loi et les évolutions, je dirais, vraisemblables que les progressistes voudront faire de la loi qui pourraient choquer l'opinion publique. On l'a vu, ça a été des parangons de l'euthanasie, l'ont dit très clairement, nous obtiendrons peu premièrement, mais ensuite il faudra régulièrement demander des élargissements de la loi. C'est toujours la même technique qu'ils utilisent. L'avortement, c'est pendant 10 semaines, puis 12 semaines, puis 14 semaines, c'est une dépénalisation. Et puis finalement, on pénalise ceux qui cherchent à s'y opposer, physiquement ou à s'y opposer, médiatiquement ou numériquement parlant. C'est toujours, toujours la même méthode et c'est toujours les mêmes fondements. Et je voudrais insister sur ce point. Bien sûr qu'aujourd'hui, il faut se battre sur l'euthanasie, mais qu'il faut revenir à la matrice de toutes ces évolutions bioéthiques, c'est l'avortement. Si on ne met pas au cœur de la question du combat pour la vie innocente, la question de l'avortement, tous nos efforts seront voués à l'échec. Voilà en tout cas ce que je pense et ce qui est l'analyse de la question que je puisse vous proposer.
Vous savez ce que certains vous répondront, Guillaume Bernard. Ils diront qu'on peut adhérer à ce que vous exprimez d'un point de vue intellectuel et logique, mais que la tactique politique, en revenant à cette origine matricielle, serait mise en cause à cause de facteurs de possible diabolisation, d'amalgame entre des sujets qui reçoivent moins l'assentiment des Français et d'un sujet qui, quoi qu'on en pense, en tout cas d'après les études d'opinion publique reçoit une majorité quasiment, pas intégrale, mais pas loin dans le pays.
Mais vous avez vu le débat sur l'euthanasie. On nous présentait au départ les sondages commandés par l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, n'est-ce pas, formule euphémistique pour dire euthanasie, on nous présentait une opinion publique qui était à 90% pour l'euthanasie. Et puis, en fait, lorsque l'on faisait des études avec des questions plus précises, on s'apercevait qu'en fait, derrière le mot euthanasie, beaucoup de nos compatriotes, par erreur, mais par manque d'informations, eh bien, mettaient ce qu'on appelle, pour dire les choses rapidement, les soins palliatifs. La réalité, c'est qu'il n'y a que 40 à 45% des Français qui sauraient ou qui sont vraisemblablement favorables à l'euthanasie et au suicide assisté. L'autre moitié des Français, ils sont pour les soins palliatifs. Eh bien, je crois que sur tous ces sujets-là, tout dépend de notre capacité à dire les choses. Il est sûr que si nous ne parlons pas de certains sujets, forcément, nos compatriotes ne seront jamais, mis au courant de la réalité des choses. Regardez aussi les hommes politiques. Au départ, peu osaient se prononcer contre l'euthanasie. Et puis, voyant que finalement, le fait de s'y opposer, ça ne les marginalisait pas tellement, eh bien, ils ont osé petit à petit s'y opposer. Regardez au Rassemblement national. Au départ, ils étaient pour une liberté de vote. Et puis finalement, ils sont plutôt, grosso modo, pour s'opposer de manière globale à la question, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de députés qui les voteront, mais qui voteraient la loi. Non, je crois que ne sont perdus que les combats que l'on ne mène pas. Point, barre. Tout le reste, il faut se battre et la route est longue, mais l'objectif est clair.
Ultime question pour vous, Guillaume Bernard. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 40 premières minutes d'émission. Vous nous disiez qu'à partir de février 2027, on peut penser que ces sujets demeurent ou ces sujets bioéthiques ou ces sujets sociétaux disparaîtront ou du moins seront relativisés dans l'importance qu'ils ont dans la campagne présidentielle. Comment est-ce que des militants, je pense à Marie-Lise Pélissier qui nous a quittés, peuvent essayer d'inverser ce cours des choses et tenter de les faire expliquer au cours du débat présidentiel?
Bon, d'abord, effectivement, il faut diffuser de l'information, de l'argumentation, et ce, à tous les niveaux, c'est-à-dire depuis la thèse de doctorat jusqu'au tract dans la rue, en passant par le flyer diffusé sur les réseaux sociaux, les analyses distribuées aux parlementaires. Il faut utiliser tous les niveaux de discours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Eh bien, de pratiquer effectivement, les méthodes de lobbying. Soit vous réussissez à convaincre et à ramener la personne à des positions cohérentes, soit, eh bien, il faut lui expliquer que vous ferez tout pour la faire battre, y compris si c'est quelqu'un qui est de votre camp. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Votre principal adversaire, si on raisonne de manière cynique, votre principal adversaire, c'est pas celui, ou plutôt, votre principale cible, pardonnez-moi, votre principale cible, la principale cible d'un lobby, ça n'est pas l'adversaire qui, de toute façon, est contre vos positions, c'est celui qui est potentiellement un traître. C'est celui qui fait semblant d'être d'accord avec vous, mais qui, une fois qu'il sera élu, eh bien, ne soutiendra plus vos positions. Celui-là, il faut lui faire comprendre que vous pouvez l'empêcher d'être élu, voire délibérément, vous pouvez essayer de le faire battre. Je crains malheureusement que la réalité, de l'influence politique, elle ne se réduit pas, elle n'est pas dans une autre méthode que celle-là. Alors, peut-être que ça n'est pas à des organisations ayant pignon sur rue comme la Marche pour la vie de le faire. Peut-être qu'il faut le faire, plus en retrait avec d'autres organisations. Mais en tout cas, il est clair qu'il faut bien signifier à un certain nombre de personnes qu'elles ne peuvent pas avoir une position doctrinalement cohérente. Outre, que c'est infamant intellectuellement parlant, ça n'est pas satisfaisant politiquement parlant. Voilà le peu que je puis vous dire en espérant de ne pas vous avoir trop choqué.
Un grand merci Guillaume Bernard de nous avoir accompagnés pendant cette première partie d'émission. Nous allons faire notre première pause musicale et nous retrouvons Ludovine de La Rochère pour poursuivre nos échanges. Thank you. Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir désormais Ludovine de la Rochère. Ludovine de la Rochère, bonsoir.
Bonsoir.
Ludovine de la Rochère, j'ai été très interpellé, on en a déjà parlé dans le début d'émission avec nos deux précédents invités, par la volonté de Gabriel Attal de remettre, enfin en tout cas de Gabriel Attal et du mouvement jeune du parti du président de la République Renaissance, de remettre la question de la GPA au cœur de cette campagne pré-présidentielle, ou en tout cas dans son lancement de campagne. On a vu qu'il y avait eu une proposition dans le programme des jeunes avec Macron, enfin de leur équivalent, des explications ambiguës sur les volontés personnelles de Gabriel Attal en termes de parentalité. Première question, et elle est honnête. Est-ce que vous avez été surprise, Ludovine de la Rochère, de cette entrée en campagne par le thème de la GPA de l'ancien Premier ministre de notre pays ?
Absolument, je suis surprise que des hommes politiques osent envisager d'encadrer l'exploitation des femmes et le commerce et la chosification de l'enfant. Eux qui se disent féministes, favorables à l'égalité, comme ils disent femmes-hommes, matin, midi et soir, eux qui en font des caisses sur ce sujet de l'égalité, qui en font des programmes, qui en font des lois, qui en font un ministère, etc., ils font mine de ne pas voir que la gestation pour autrui est évidemment l'exploitation de la femme. C'est extraordinaire de pouvoir d'oser dire, prétendre qu'on pourrait rendre éthique, je mets des gros guillemets à éthique, une pratique qui consiste à exploiter des femmes. Et c'est exactement comme d'encadrer l'esclavage et de dire que dans ce cas-là, l'esclavage est acceptable. Il n'y a aucune différence et même juridiquement, la gestation pour autrui correspond à la définition même de l'esclavage, qui est le fait de s'approprier une personne en tout ou en partie de manière provisoire ou pérenne. Et donc, la pratique des mères porteuses correspond exactement à cela. Et évidemment, la gestation pour autrui, c'est comme l'esclavage, on ne peut pas l'encadrer, on ne peut que l'abolir. Et j'ajouterais que ces hommes politiques nous parlent également en permanence des valeurs républicaines, de la République, laquelle a pour devise la liberté, l'égalité et la fraternité. La fraternité, évidemment, implique, c'est la même chose, de respecter les autres, et notamment les femmes et les enfants, implique l'égalité, elle est justement de ne pas exploiter les femmes parce que femmes, parce que c'est bien ça, la pratique des mères porteuses, c'est parce que la femme est en capacité d'être inséminée et de faire grandir un enfant en son sein, mais sauf que là, c'est l'utilisation, comme on le ferait, d'un animal, hein. C'est une chosification de la femme aussi, ça n'est évidemment pas dans le sens de l'égalité homme-femme. La fraternité, on est tous sauf dans la fraternité, le respect de l'autre et tout. Donc, ils osent. Alors, bien entendu, on les connaît, leur progressisme, leur hypocrisie, leur arrogance, là où ils veulent arriver, bien entendu. À cet égard-là, d'une certaine manière, on ne l'est pas. Mais il n'empêche, ils osent. Et c'est absolument incroyable.
Au sein du gouvernement et de sa propre famille politique, Gabriel Attal a rencontré l'opposition forte d'une femme politique, en l'occurrence la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui s'est dit extrêmement défavorable à cette proposition, qui a expliqué pour d'autres raisons, notamment qu'elle ne savait pas encore si elle se rentrait au meeting de lancement de campagne de l'ancien Premier ministre. Elle a affirmé « la maternité, la parentalité est quelque chose de très personnel et je ne comprends pas dans quel cadre on imagine pouvoir mettre à disposition le ventre des femmes, que ce soit rémunéré ou pas ». Question un peu taboue, Ludovine de la Rochère, mais je sais que vous n'avez pas peur des tabous. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'hommes autour de Gabriel Attal pour le conseiller sur cette question et que la remarque, la critique qui lui est faite par Maud Bréjon, mais par d'autres, il y a Elbron Pivet, on peut penser aussi à l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, trouve une sorte de résonance dans cette question du débat sur la GPA au cœur du programme présidentiel de Gabriel Attal?
Alors, je vais être beaucoup plus cash. La gestation pour autrui, y ont recours des couples hommes-femmes et des couples d'hommes, et aussi des hommes seuls. Mais cette pratique est revendiquée, portée par le militantisme LGBT. Il se trouve qu'autour d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de personnes qui sont des militants LGBT. Et arriver à ce niveau-là du pouvoir, peut-être par des réseaux d'alliés, cela, je n'en sais rien, mais le fait est qu'il y a un certain nombre de militants LGBT et qu'ils profitent du pouvoir, de leur visibilité, de l'influence, pour tenter de faire avancer à nouveau ce projet. Il faut savoir que la dernière, alors ce qui est assez cocasse quand même, hein, c'est que la dernière proposition de loi qui visait à légaliser la pratique de la GPA date de 2011 et ça avait été porté par une sénatrice de droite, probablement complètement naïve, qui ne connaissait pas le sujet. Mais le fait est que depuis 2012, et avec la création et l'action hein, de la Manif pour tous, puis du syndicat de la famille, plus jamais un élu n'avait osé proposer cette légalisation. Même si l'un ou l'autre avait dit, pour ma part, j'y serais plutôt favorable, en l'occurrence Gabriel Attal, pour des raisons personnelles, disait-il. Pendant ces 15 années, ou presque 15 années, on a eu le combat culturel, ils ont publié des livres, ils ont financé, subventionné des séries, des films, etc., etc. Des sondages, armes psychologiques très importantes sur le plan, enfin, armes psychologiques politiques. Et donc, ils ont mené un véritable combat culturel pendant toutes ces années, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas cessé de vouloir passer par toutes sortes de détournements, et en particulier par la reconnaissance de la filiation d'intention qu'il revendique, qui n'existe pas, mais qu'il revendique, entre les commanditaires et les enfants commandés par GPA. Et ce débat paraît technique, et donc il est un peu rebutant pour ceux qui n'en sont pas, qui ne suivent pas de très près. Il est pourtant essentiel parce que c'est une manière de faire avancer l'idée de la GPA et d'obtenir une reconnaissance de fait. Donc, tout le long de ces 15 années, ça a été une très longue bataille, hein, pied à pied, avec des avancées, des reculs. Et là, ils reviennent à la charge avec une tentative de reparler de légalisation. Et le fait est que Gabriel Attal, premièrement, il est concerné, il l'avait dit lui-même, hein, que ça l'intéressait à titre personnel. Et deuxièmement, il tente aussi de se faire remarquer parmi les très nombreux politiques qui souhaitent se présenter à la présidentielle. Enfin, très nombreux eu égard au fait qu'il y aura un seul élu à la fin. Et là encore, j'y vois une volonté de banaliser, d'habituer à l'idée de la gestation pour autrui, d'une reconnaissance de la GPA, et la banalisation, la promotion de l'idée d'une GPA qui, soi-disant, pourrait être éthique, alors qu'il n'existe qu'une seule GPA. Chaque fois qu'on parle de GPA commerciale, ou de GPA altruiste, ou de GPA traditionnelle, ou de GPA tout ce qu'on veut, on ment, il n'y a qu'une seule GPA. La gestation pour autrui, elle consiste à exploiter une femme pour lui faire produire un enfant qui est remis à un tiers. Quelles que soient les modalités, c'est toujours ce principe, et ce principe même ne peut pas être éthique. Et donc, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il n'y a qu'une seule GPA.
À cet égard, d'autres ne prétendent pas que la GPA puisse être éthique. En revanche, ils disent que c'est un fait accompli. J'en veux pour preuve la dernière sortie du fils, d'un des enfants de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui explique, je cite, « Moralement, la GPA ne me plaît pas. Moralement, je suis contre l'idée de la location d'un ventre et de la transaction d'enfants, mais la loi, ce n'est pas la morale, ça ne peut pas l'être. C'est pour ça que je suis pour la légalisation de la GPA, car une loi sert à protéger les gens, pas à les corriger. Que vous inspire cette prise de position ?
Alors, la première des choses, c'est que donc, si M. Sarkozy envisage de se lancer en politique, mais qu'on soit la politique comme n'ayant rien à voir avec la morale, c'est extrêmement gênant, puisque la politique et les lois, elles sont la traduction de la philosophie qui nous porte. Elles mettent en œuvre, elles rendent concret les choix philosophiques que nous faisons. Et donc, la politique a tout à fait à voir avec la morale. Et d'ailleurs, nous avons des institutions qui sont supposées nous dire ce qui est moral ou pas, enfin, ce qui est éthique ou pas. Hein. C'est le mot grec ou le mot latin, mais philosophiquement, c'est la même chose. Nous avons, par exemple, le Comité consultatif national d'éthique, qui montre bien, qui est supposé conseiller le politique en la matière, qui montre bien que l'éthique, la morale, doit être prise en compte dans les choix que nous faisons. Premièrement, deuxièmement, nous sommes dans une société qui a perdu assez largement toute référence religieuse et pour laquelle la loi est devenue une forme de repère moral. Je vais vous donner un exemple. La loi Taubira a été légalisée, donc on prétend maintenant pouvoir marier des couples d'hommes ou des couples de femmes. Et dès lors que ça a été légalisé pour un certain nombre de Français, alors ça devient légitime, alors ça devient acceptable, c'est-à-dire cela devient conforme au bien. C'est ce qu'on appelle une question morale. Et donc, quand M. Sarkozy prétend cela, il est évidemment d'une hypocrisie ou alors d'une inconséquence absolument infligeante. Je ne sais même pas dans quel sens vous le dire, mais bien sûr, il nous dira également, comme d'autres, comme Gabriel Attal, comme Franck Riester, qu'il est favorable à l'égalité homme-femme, qu'il est favorable aux valeurs de la République, etc., etc. Mais tout en partant du principe que d'emblée, aussi vite, sans même avoir tenté de s'y opposer, alors qu'il se prétend opposer, eh bien déjà, il s'y résout. C'est l'impuissance politique par excellence, et c'est ce dont la France souffre tant, et d'autres pays, bien sûr.
Sur le sujet de la GPA, la majeure partie des candidats de droite, enfin en tout cas des candidats déclarés, on ne sait pas s'ils seront vraiment candidats, ont affirmé leur opposition. C'est le cas d'Éric Zemmour, c'est le cas de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est le cas de Bruno Retailleau, évidemment. En même temps, on voit bien qu'il y a un coup politique tenté par Gabriel Attal là-dessus. Est-ce que vous espérez que d'autres candidats, hein, potentiellement de gauche, tiennent ferme sur cette position, ou est-ce que vous êtes inquiète des dynamiques qui pourraient émerger à l'occasion de cette campagne électorale ?
Alors, je suis bien évidemment très inquiète parce qu'on connaît les difficultés des politiques à tenir sur des positions. La peur des politiques vis-à-vis des campagnes qui peuvent être menées sur les réseaux sociaux, qui peuvent être menées dans les médias, dont une grande majorité sont progressistes. Et nous connaissons même, vous savez, ce qu'on appelle, il y a la droite décomplexée, mais ça signifie qu'il y a la droite complexée. Et toute une partie de la droite est complexée de ne pas être à gauche. Cela étant dit, la gestation pour autrui est une question très transversale. Non pas parce que dans l'esprit de... d'élus de tous bords, la maternité serait absolument à faire respecter, serait absolument essentielle et cruciale, mais parce que justement, il y a d'abord l'aspect de la marchandisation et d'autre part l'aspect de l'égalité et du respect de la femme. Ce qui fait qu'une partie de la gauche est opposée à la gestation pour autrui, mais plutôt l'extrême gauche. C'est plutôt un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui explique qu'il sera pour la GPA le jour où il verra une femme riche porter un enfant pour une femme pauvre. Il sait que ça n'arrivera pas, il est donc opposé à la gestation pour autrui. En revanche, la gauche y est assez largement favorable, et bien sûr, je crains fort que Gabriel Attal banalise, et rien qu'en le formulant, en le disant, en osant le dire, il ouvre la fenêtre d'Overton dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il rend possible ce débat. Or, ce débat ne devrait même pas être envisageable. Et si vous me permettez, pour revenir au fond de l'enjeu et aller un peu au-delà de la question de l'exploitation de la femme, il faut tout de même rappeler que la maternité nous concerne absolument tous. Elle concerne la conception de l'enfant, elle concerne l'enfant qui se développe et grandit, elle concerne le fruit de la relation homme-femme, elle est l'histoire d'un enfant qui va venir au monde et dont toute la vie va être impactée par la manière dont il aura été conçu, dont il aura été accueilli dans le monde. Et vous voyez, autrefois, enfin, ou il y a longtemps, très longtemps, j'allais dire dès les débuts de l'humanité, on avait une certaine vénération pour la maternité. Peut-être que vous pouvez rappeler à certains, on a retrouvé dans différentes sociétés des statuettes qu'on a appelées, dont on a pensé qu'elles correspondaient à une forme de déesse mère. C'est dire que toute l'humanité a toujours reconnu, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les époques, l'extraordinaire événement de la maternité, qui bien sûr ne va pas sur la paternité, il ne faut jamais l'oublier. Et en s'attaquant à la maternité, en voulant une ubérisation, une marchandisation de la maternité, on va... complètement à l'encontre de ce qui est, de ce qui fait notre humanité. Et donc, il y a une forme de destruction évidente de la procréation, enfin, du fruit du couple, de l'amour du couple, de la procréation, de la maternité, de la paternité, de la famille, finalement, de la filiation, pardon, et de la famille. La maternité ou la gestation pour autrui, en tout cas, C'est un déflagrateur, c'est une bombe atomique sur le plan anthropologique. C'est extrêmement destructeur et c'est un sujet sur lequel on doit être extrêmement mobilisé, prêt à se mobiliser pour ne pas laisser passer. Et c'est un sujet qui est tout à fait différent de celui de l'euthanasie, même s'il correspond bien sûr à la même famille de pensée, hein, progressiste, l'autonomie de l'individu, le déni de ce qu'est l'être humain, de la différence homme-femme, le déni du respect des plus vulnérables. Mais c'est un sujet à déflagration successive.
Alors que le président de la République a fait du réarmement démographique un de ses enjeux principaux, est-ce que vous pensez que, j'allais dire un peu contre-intuitivement, ou au moins un peu contre ce qu'une certaine doxa voudra nous apprendre, cette remise en avant de la GPA peut au contraire continuer à abîmer l'image de la maternité dont vous parliez et contribuer à une forme de d'atmosphère dénataliste ou à continuer à mettre à ce point à mal l'image de la mère que cela constitue ou fait partie du problème de la dénatalité dans notre pays.
Cela ne fera bien sûr qu'accentuer la dénatalité, tout comme la PMA sans père a accentué la dénatalité, tout comme l'autoconservation des ovocytes contribue à la dénatalité, alors pour beaucoup de raisons. Mais notamment parce qu'en faisant de la maternité une prestation, on la dévalorise. D'une part, elle n'est plus cet événement extraordinaire, admirable, j'allais dire presque miraculeux, elle devient une prestation parmi d'autres, l'enfant devient un produit parmi d'autres, et que l'on conçoit par pièces détachées, alors d'un côté les ovocytes qu'on va aller acheter, de l'autre les spermatozoïdes qu'on fournit ou qu'on achète, et puis une mère porteuse, la sélection des embryons, la sélection du sexe, etc. etc. Et l'enfant devient, n'est plus respecté comme être humain, comme personne, il devient un produit que l'on peut fabriquer. Et dès lors, l'enfant va se trouver éventuellement en grand risque de décevoir par rapport à la commande qui a été passée. Il ne sera pas, parce qu'un enfant n'est pas un produit, quelles que soient les sélections qui auront pu être faites, il ne sera pas exactement comme attendu, il ne correspondra pas au produit commandé. Et l'enfant va se trouver dans une position absolument terrifiante vis-à-vis d'adultes qui ne sont pas, qui de toute façon d'emblée n'ont pas été la démarche de l'attente de l'enfant. Il vient pas, il est comme ci, il est comme ça. Je le découvre petit à petit. On est dans une démarche complètement différente et dans laquelle le couple ou la personne commanditaire aura mis beaucoup d'argent pour obtenir cet enfant. Et donc, on est complètement à l'encontre de la mentalité, de l'état d'esprit qui est tourné vers l'enfant, tourné vers les besoins de l'enfant, tourné vers le respect de l'enfant comme personne et comme personne à accueillir et à éduquer. Donc, ces contradictions, ces oppositions même, ne peuvent aller que contre un état d'esprit qui est celui qui correspond à l'enfant dont on rêve, qu'on a envie d'avoir, d'élever, d'éduquer. On va complètement à l'encontre et cela ne peut donner que très peu d'enfants. D'ailleurs, une gestation pour autrui, accessoirement, ça coûte extrêmement cher. Et sauf quelques personnes très fortunées et encore plus profondément atteintes sur un plan psychique, ce sont des foyers dans lesquels il y a un ou deux enfants obtenus par GPA, mais en vérité, pas plus. La mentalité est exactement à l'opposé, la culture est à l'opposé, et cela ne peut pas être celle qui correspond à l'enfant que l'on rêve d'avoir, mais qui viendra si la vie en décide.
Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette deuxième partie d'émission, Ludovine de la Rochère.
Merci à vous.
On peut suivre toutes les activités du syndicat de la famille et ses nombreuses interventions sur Radio Courtoisie. Une ultime pause musicale avant de rejoindre Grégoire Pupinck.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. Troisième, ultime invité de notre émission, c'est Grégoire Pupin. Grégoire Pupin, bonsoir.
Bonsoir, Charles.
Vous vous occupez de l'ECLJ, l'European Center for Law and Justice. Est-ce que vous pouvez nous en dire trois mots déjà en introduction pour ceux qui, parmi les rares auditeurs qui ne connaissent pas l'ECLJ, qui
alors, fait la en français, monsieur de Meyer, l'ECLJ, Centre européen pour le droit et la justice. Donc, droit et justice, c'est le nom, on va dire, simple. C'est une organisation qui est basée à Strasbourg depuis 1998, déjà ancienne, et qui travaille auprès des instances, enfin qui fait son travail avec les instances internationales, européennes et les Nations Unies en particulier, pour la défense de trois principes, la dignité humaine, les libertés et la souveraineté. Donc, plus prosaïquement, on retrouve défense de la vie, défense des chrétiens, comme vous y connaissez quelque chose, défense également des droits des parents en matière d'éducation, de liberté de conscience, du personnel médical, et puis aussi l'aspect souveraineté, c'est défense de la liberté politique face à l'excès de pouvoir des instances internationales. Donc c'est une équipe de juristes chrétiens qui se consacre à cette noble tâche.
Parmi ces sujets, il y en a un, enfin en fait, il y en a beaucoup qui font l'actualité, mais pour ce sujet principal, on va parler de la législation en cours d'élaboration sur l'euthanasie en France. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point juridique sur la particularité de ce qui a été proposé en France, on va dire, par rapport à ce que un juriste aurait pu imaginer comme type de proposition? Est-ce que cette proposition est originale par rapport à d'autres dispositifs qui permettent l'euthanasie en Europe ou dans le monde, ou du moins vis-à-vis de ce à quoi on aurait pu s'attendre en France?
Alors, première particularité, c'est que c'est un texte qui vise à la fois l'euthanasie et le suicide. Il y a des pays qui ont décidé de ne légaliser que le suicide assisté, notamment le cas aux États-Unis ou en Suisse. Donc là, ce sont en fait les pays qui ont permis cette pratique depuis le plus longtemps, depuis plusieurs décennies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au départ, le premier mouvement historique a consisté dans la dépénalisation du suicide, avec l'idée qu'il ne fallait pas condamner ensuite des personnes qui ont déjà traversé cette épreuve de la tentative de suicide. Une fois que le suicide est devenu dépénalisé, eh bien, a été dans certains pays dépénalisé le fait d'aider quelqu'un à se suicider, par extension, le cas en Suisse ou dans l'Oregon. Certains pays donc se sont limités à cela. Et généralement, quand ils se limitent à cela, c'est une pratique qui n'est pas médicalisée, comme en Suisse, ça veut dire que ce sont des associations qui le font, parfois contre rémunération directe ou indirecte, et ça se fait d'une certaine manière un peu en marge de la société, avec aussi des problèmes d'encadrement, des problèmes d'abus de faiblesse, de vulnérabilité, aussi des problèmes liés au devenir des cadavres. Hein. Il y a eu des cas en Belgique, en Suisse, on a retrouvé pas mal d'urnes funéraires au fond des lacs. Donc, il y a quand même aussi des problèmes, mais c'est une pratique. Le choix qui a été fait en France, c'est de proposer de légaliser à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Donc là, c'est une particularité. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est qu'en fait, l'euthanasie, c'est conçu pour les personnes qui ne veulent pas ou ne sont pas en état de se tuer elles-mêmes et qui sont déjà perçues comme dans un état de maladie ou d'incapacité physique avancée. Tandis que le suicide, ça a toujours été davantage l'idéal des mouvements qui promeuvent l'euthanasie. Parce que pour eux, l'idée de base, c'est que la mort doit devenir une liberté. Ça, c'est vraiment l'idée fondamentale des promoteurs de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est présenter la mort comme une liberté, et donc même comme la plus grande liberté, comme disait l'un des fondateurs des grandes associations françaises sur l'euthanasie. Et donc, l'idéal pour eux, c'est le suicide. Et à défaut, si on n'est pas capable ou si on n'est plus capable, l'euthanasie. Donc ça, c'est la première particularité du texte français. Il y en a d'autres, on peut y revenir si vous voulez.
Petite interstice, puisqu'on peut lire une étude très intéressante que vous avez réalisée vous-même, Grégoire Pupin, que la promotion de l'euthanasie au XXe siècle, enquête historique pour comprendre l'origine et la pensée des mouvements euthanasistes. On le retrouve sur le site de l'ECLJ. Vous venez de faire état d'une partie de tout ça. J'aimerais qu'on revienne sur la percée de ce mouvement en France et notamment de l'ADMD. Je n'avais pas prévu cette question, mais je pense que c'est important et ça entre en résonance avec votre réponse. Quelle a été la place de ces organes militants, directement militants, dans l'arrivée de cette proposition de loi dans notre pays?
Alors, en fait, c'est leur travail. C'est le résultat de leur lobbying acharné et persévérant depuis 50 ans.
On peut leur reconnaître l'opiniâtreté.
En fait, c'est très simple pour eux. Ils ont une association et une cause. Vous voyez, donc, j'ai décrit le CLJ avec tout un panel d'actions. Eux, c'est une assoce, un but. Et ça, fondé en France en 1980. Alors, ce qu'il faut voir, et depuis, donc, ils ont fait déposer une série de propositions de loi, toujours plus ou moins similaires. Ils ont aussi demandé à l'ONU, par exemple, de modifier la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc en toute modestie, pour y intégrer un droit au suicide assisté. Sinon, sur l'origine en fait, de ce mouvement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mouvement qui ne cache pas ses origines. Au plan idéologique, c'est pour la France principalement la franc-maçonnerie. D'ailleurs, son symbole, c'est un triangle qui, d'ailleurs, devait être au départ entouré d'un cercle. Donc, c'est vraiment un symbole ésotérique franc-maçon. Ensuite, l'origine, on va dire, du mouvement, c'est international et très largement anglo-saxon et issu des mouvements eugénistes du début du XXe siècle. Donc, les mouvements eugénistes américains, en particulier anglais et allemands, des années 1920, des fameuses années 1930, qui promouvaient déjà à l'époque la stérilisation des personnes handicapées, l'euthanasie des personnes handicapées, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en Amérique, en particulier l'euthanasie des nourrissons, des enfants handicapés, afin de, bien sûr, ne pas avoir à payer leur entretien pendant toute leur vie, et puis l'euthanasie des vieillards qui coûtent cher dans le même but. Et ces mêmes mouvements eugénistes des années 20, des années 30, eh bien, ont continué leur action et ils se sont diversifiés. Certains se sont engagés dans la promotion de l'avortement, d'autres se sont engagés dans la promotion de l'euthanasie, et d'autres, vous en avez parlé, y compris sur d'autres formes de sexualité ou de procréation, comme la GPA. Et il y a une vraie filiation entre mouvement eugéniste et mouvement de promotion de l'avortement et mouvement de promotion de l'euthanasie. Avortement et euthanasie étant deux formes similaires de contrôle de la vie à l'entrée et à la sortie, comme disaient les eugénistes de l'époque, un contrôle qui se veut à la fois quantitatif et qualitatif. Donc il y a vraiment une filiation qui vient des mouvements de la libre pensée, des mouvements maçonniques et des mouvements eugénistes anglo-saxons. Le tout se recoupe. Et c'est ce qui donne la force à la fois idéologique, la consistance de cette matrice idéologique, et aussi la puissance politique, puisqu'ils peuvent s'appuyer sur des grands réseaux de relais politiques, sachant que les mouvements eugénistes ont vraiment pénétré l'administration américaine très fortement, encore après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, l'ADMD en France tire d'ailleurs son logo de l'association britannique, tire son nom de l'association américaine, qui est elle-même, donc je dis, issue du mouvement eugéniste, tire son programme et ses premières publications des associations américaines et britanniques. Donc, en fait, c'est complètement un produit d'importation dans son nom, dans son programme, dans son logo, dans son idéologie. Un produit d'importation qui a rencontré un succès à partir du moment en particulier où deux grands francs-maçons français s'y sont investis, à savoir Henri Caillavé, qui était sénateur, et Pierre Simon, qui était grand maître et gynécologue, et qui ont vraiment donné une puissance au mouvement en France.
Actuellement, il y a une série de débats parlementaires complexes. On voit une opposition, enfin en tout cas une diversité d'appréciation entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Première question, vous qui avez suivi l'élaboration de la loi dans son intimité, est-ce que vous êtes surpris de cette différence d'interprétation et de positionnement? Et qu'est-ce qu'il faut en retenir pour ceux qui suivent l'évolution de ce combat législatif?
Alors, surpris, je dirais que je suis surpris par la radicalité de la majorité à l'Assemblée. C'est ça qui me surprend le plus. Je ne suis pas surpris de la division au Sénat, qui a conduit au rejet à deux reprises de la proposition de loi. Ce qui me surprend, en fait, c'est que les députés, qu'il y ait une majorité de députés qui soient capables de voter des mesures aussi radicales. Ça, j'avoue que j'en suis stupéfait. J'ai suivi les débats à l'Assemblée. Et ce que j'ai vu, en fait, c'est qu'il y a un grand nombre de députés qui sont comme fascinés par le discours de M. Falorni, par le discours un peu prométhéen sur la mort, la maîtrise de la mort, et qui, en fait, n'osent pas se démarquer de ce qu'il leur est présenté comme un nouveau grand progrès de la conscience républicaine. Vous voyez ? Donc, on leur explique, en fait, si vous êtes contre l'euthanasie, c'est comme si vous étiez contre l'avortement en 75. Ça veut dire que vous n'avez rien compris au sens de l'histoire et à ce qu'est la République. Donc, c'est vraiment cette loi, et c'est pour ça que M. Macron y est tellement attaché, cette loi, c'est vraiment une nouvelle loi qu'on peut qualifier malheureusement, on va dire, de la tradition de la pensée maçonnique. Il faut oser le dire. Il faut pas, je dirais, eux nous accusent sans cesse d'être catholiques. On peut bien, de temps en temps, leur faire remarquer leur idéologie. Et donc, c'est une grande loi, oui, dans leur idéologie. Et donc, pour beaucoup de députés, il est extrêmement difficile de réfléchir de façon indépendante et sereine et de ne pas suivre, on va dire, aveuglément les personnes qui mènent et qui promeuvent cette proposition à l'Assemblée jusqu'à des points les plus radicaux, comme vous savez, le délai, par exemple, de 48 heures de réflexion, enfin, ce qui est une aberration complète. C'est un exemple où le fait de priver les proches du droit d'être informé. Encore une fois, on prive. Donc, pour donner un exemple aux auditeurs, vous avez un grand-père, une grand-mère, un cousin, un proche, un conjoint qui demande l'euthanasie. L'euthanasie, cette demande, vous n'en êtes pas informé, vous n'avez pas un droit à en être informé. Donc, ça peut se faire sans que vous le sachiez, votre enfant, votre conjoint, vos parents. Et ensuite, ça peut être fait en 3 jours. Et donc, c'est vraiment une...
Et on voit une volonté qu'aucune, presque d'exclure la société de ce choix hyper individualisé, prétendument hyper individualisé, comme vous nous l'avez décrit.
Tout est fait pour faciliter et accélérer l'euthanasie. En se disant que le moindre obstacle doit pouvoir être levé. Et donc, par exemple, en matière de recours, personne n'a le droit de faire un recours contre la décision du médecin d'accorder la mort. Sauf, donc personne n'a le droit de faire ce recours, personne. Le seul recours qui est envisagé, c'est l'inverse. C'est que si le médecin refuse, dans ce cas-là, la personne qui demande la mort peut contester en justice le refus du médecin.
Pour les moins versés dans la chose juridique de nos auditeurs, est-ce que, par exemple, ça, c'est une incongruité? Est-ce que c'est très étrange dans une loi? Ou est-ce que, bon, finalement, ça paraît interpeller comme ça le sens commun, mais on pourrait y trouver des exemples ou des similitudes avec d'autres dispositifs?
C'est totalement contraire à la Constitution et aux droits fondamentaux, parce que le droit au recours judiciaire, c'est un droit fondamental. L'accès à la justice. On ne peut pas prétendre qu'une personne n'ait pas un intérêt à agir en justice pour défendre la vie de l'un de ses proches qu'il pourrait savoir fragile, vulnérable. Évidemment que toute personne a par principe le droit d'agir en justice. Donc là, c'est clairement contre un droit fondamental. Et je pense que le Conseil constitutionnel, si la loi devait être votée, j'espère et je pense qu'il ne laisserait pas cela passer, de même que la CEDH, je l'espère. Voilà, donc c'est un exemple, il y en a d'autres, hein, il y a toute une série d'incongruités, comme le fait que l'incitation, il y a un délit d'entrave qui a été mis en place pareil, qui est fou parce qu'il prétend condamner à la prison, vous vous rendez compte, à la prison, une personne qui essaierait de dissuader un proche de recourir à la mort, enfin de choisir la mort, de l'euthanasie ou le suicide, par, dit-on, des formes de pression psychologique, ce qui peut en fait être extrêmement large. Donc toute personne qui essaierait de dissuader quelqu'un de mourir, voilà. Et donc ça, c'est extrêmement large, prévu, donc impose une peine de prison, donc c'est très grave. Et évidemment, c'est une atteinte aux droits des proches, même au devoir des proches de protéger les personnes vulnérables. C'est aussi contraire aux obligations que toute personne a de prévenir le suicide. Donc c'est voilà, c'est, et puis ensuite on peut le développer, c'est aussi l'atteinte à la liberté de conscience parce que ça obligerait aussi tout responsable d'établissement médical ou social à accepter la pratique de l'euthanasie sous peine de prison. Donc c'est voilà, c'est vraiment des mesures liberticides.
Alors première question sur ce sujet, Grégoire Pupin, puisque il intéresse beaucoup de nos auditeurs. On est dans un basculement de la génération du baby boom vers des situations de vieillissement, qui dit vieillissement arrivé de dépendance, de vulnérabilité et de fin de vie. Alors évidemment, ça ne concerne pas que les personnes les plus âgées, mais statistiquement, ce sont les plus concernés. Et beaucoup s'inquiètent à bon droit, alors même que la France souffre d'une lacune de moyens pour les accueillir. Pour accompagner leur vieillissement, du fait que certains des centres, notamment chrétiens, catholiques, qui les accueillaient, pourraient être concernés à la fois par ces questions de l'entrave, par ces questions de la discrimination de leurs établissements. Est-ce que c'est une sorte de vision complotiste des conséquences de la loi, ou est-ce que concrètement, dans la loi, on pourrait voir demain des congrégations de bonnes sœurs ne plus pouvoir s'occuper des personnes en état de dépendance, des lieux d'accueil, par exemple, je pense à des EHPAD tenus par des gens qui ont soit des opinions, soit des confessions religieuses, fermées parce qu'elles ne sont plus en accord avec le dispositif juridique qui serait voté à l'Assemblée nationale.
En fait, voilà, donc la proposition de loi prévoit une obligation pour les responsables d'établissement d'accueillir en leur sein la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté. Alors certes, il existe une clause de conscience pour les médecins ou les infirmières, mais le directeur ou le responsable d'établissement, lui, il a l'obligation, par exemple, de laisser entrer dans son établissement une équipe extérieure d'euthanasie, donc un médecin extérieur qui viendrait pratiquer l'euthanasie, chez lui, sur ses résidents. Donc les religieuses qui tiennent une maison de retraite auraient l'obligation d'accepter qu'un médecin extérieur vienne pour euthanasier l'un de leurs patients ou résidents dans leur établissement. Si elles refusent l'entrée de leur établissement à cette personne pour protéger la vie de leur résident, dans ce cas-là, elles commettent un délit d'entrave. Et dans ce cas-là, elles sont susceptibles d'être condamnées à 2 ans de prison et à devoir payer une amende de 30 000 euros. En plus de cela, évidemment, cela aurait des conséquences sur leur financement public, parce que ces établissements privés sont très souvent financés en grande partie par les agences régionales de santé, lesquelles, d'ailleurs, dès le vote de la loi, pourra leur demander et même exiger que ces établissements confessionnels démontrent qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour prévoir l'application de la loi. Donc, si les établissements ne se conforment pas à la loi et ne prévoient pas une procédure, eh bien, les ARS pourraient même d'emblée les sanctionner au plan financier en disant si vous n'appliquez pas la loi, eh bien sûr, vous ne serez pas ou moins financé. Et donc, c'est une menace d'abord financière, avec la pression de l'administration, comme pour les écoles privées, sous contrat, la pression de l'État, qui dit vous ne faites pas, vous n'avez plus d'argent. Et ensuite, une menace pénale, le jour où un résident demande à mourir.
Grégoire Pupin, question simple. À vous entendre, on a l'impression que c'est la négation de toutes les libertés fondamentales, liberté de conscience, même liberté d'entreprise, même si le mot est peut-être un peu malheureux dans ce sujet, mais liberté d'association. Est-ce que ça, c'est une disposition qui, par exemple, a des chances de passer le Conseil constitutionnel, la CEDH, ou est-ce que là, vraiment, le législateur fait tellement n'importe quoi que même en ayant des doutes sur l'équité des décisions rendues, on peut s'imaginer que ce sera censuré?
Cher Charles de Meyer, l'un des indices qui montre que l'on est en présence d'une fausse liberté, c'est qu'elle est contraire aux autres libertés. Et, quand on va prétendre que l'avortement est une liberté, en fait, non, parce qu'on sait bien que c'est contraire au droit à la vie, qui préexiste, qui est une vraie liberté, un vrai droit. De même, si on dit que la mort est un droit ou une liberté, eh bien, ça génère des conflits avec de vrais droits et de vraies libertés. Et ça, c'est un indice qui ne trompe pas sur l'économie des droits de l'homme et du droit, l'équilibre général du droit. Ça vient perturber tout le système juridique et provoquer une forme de conflit de génération où des nouveaux droits viendraient en fait entrer en conflit, comme le droit à l'enfant qui viendrait entrer en conflit avec les droits de l'enfant. Et là, le droit à la mort vient entrer en conflit avec les droits du personnel médical, etc., des enfants, des familles, des proches. Donc, est-ce que ça peut tenir? Alors, nous, on travaille à l'ECLJ, on travaille fortement pour la défense de la liberté des établissements confessionnels, de la liberté de conscience. On agit aux Nations Unies. Pour cela, ça fait des années qu'on travaille auprès de la Cour européenne des droits de l'homme également. Donc, j'ai une relative confiance que les instances internationales condamneraient la France dans l'hypothèse où un établissement religieux serait pénalement condamné pour avoir refusé la pratique de l'euthanasie en son sein. Aujourd'hui, maintenant, tout ça, ça peut évoluer parce que la pression est très intense. Mais aux Nations Unies, par exemple, nous avons contacté la rapporteure des Nations Unies pour la liberté de conscience et de religion, avec une religieuse des Petits-Soeurs des Pauvres, pour l'alerter, et elle a été extrêmement sensible. Et elle reconnaît que ce serait une violation de leurs droits. Donc, c'est un combat qu'il faut mener sur le terrain juridique. Mais en France, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel doit encore donner la preuve de son indépendance politique et idéologique. Donc, ce n'est pas gagné pour la France, mais les arguments sont très puissants.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Grégoire Pupin, au cours de cette discussion. Si on veut suivre les analyses, les vôtres et puis celles de toute votre équipe, où peut-on se rendre, où peut-on retrouver les analyses et les travaux de l'ECLJ?
Alors, on peut tout trouver sur le site de l'ECLJ, eclj.org. Donc, vous trouverez tous ces renseignements, l'article sur le débat en cours. Vous aurez aussi moyen d'écrire à vos députés, à vos sénateurs. Donc, je précise que la commission mixte paritaire, ça veut dire la commission qui va réunir des délégués de l'Assemblée et du Sénat. Donc, la procédure va se poursuivre au mois de juin, puis ensuite au mois de juillet à l'Assemblée et au Sénat. Donc, le débat est en cours. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est inciter les auditeurs à réfléchir à cette question de la société que pourrait produire la légalisation de l'euthanasie. Est-ce que nous voulons vraiment de cette société? Et même si c'est, comme vous l'avez dit, la génération des baby-boomers qui en serait la première victime. Inciter les auditeurs à aller sur le site de l'ECLJ pour écrire à leurs élus et leur demander de refuser ce texte.
Un grand merci, Grégoire Pupin, et je ne trahis pas de secret en disant que beaucoup de gens qui travaillent dans les assemblées se fondent sur ces travaux pour orienter leurs réflexions. Donc, allez-y, ceux qui bossent concrètement le font aussi. Amis merci. Auditeurs de Radio Courtoisie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des débats, et je remercie à la technique qui a rendu cette émission possible.
Venez d'entendre le Libre Journal des débats, dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le mercredi 27 mai 2026, diffusée en direct sur Radio Courtoisie mercredi 27 mai 2026 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.